Bienvenue dans La Voix au chapitre, le podcast médiéval et littéraire animé par Marielle Avesco et Anaïs Guiraud. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Mariella.
Tu vas bien?
Oui, je suis ravie de te retrouver.
Ah ben moi aussi. Puis alors là, on se retrouve pour un nouvel épisode et pas des moindres quand même. On va parler de notre cher Saint-Louis.
Eh oui. Saint-Louis dit aussi le prud'homme et Louis IX hein, quand même de son pignon. Pour
c'est vrai que du coup, on oublie parfois son numéro. On le dit moins Louis IX, il est plus connu sous le nom de Saint-Louis, mais effectivement, il a plusieurs appellations. Je rappelle peut-être pour ceux qui auraient oublié ou qui ne le savent pas, que c'est un roi issu de la lignée des Capétiens. Un roi du XIIIe siècle qui a connu un des règnes les plus longs de l'histoire de France. Combien déjà
43 ans. Ouais, à l'époque, puisqu'il est monté sur le trône extrêmement jeune. En tout cas, il a été couronné extrêmement jeune, même s'il n'a exercé le pouvoir qu'à sa majorité. Et il est mort assez âgé. Donc, on a un règne qui va
beau règne.
De 1226 à 1270. Donc, c'est un très beau règne.
C'est ça, couronné à 12 ans et puis un des seuls rois, je pense que c'est le seul roi à être canonisé.
C'est en tout cas en France, ça c'est une certitude et même je crois dans toute l'Europe, c'est le seul roi à être canonisé et surtout extrêmement rapidement après sa mort. Et c'est pour ça que on dit Saint-Louis aujourd'hui. Le truc, c'est que c'est vrai que du coup, c'est parfois difficile de trouver vraiment l'homme derrière le saint, derrière le roi saint. Moi, j'aime bien rechercher, quand j'ai fait des recherches, notamment pour mon roman Les Mirages de Terre Sainte, j'ai eu quand même pas mal de difficultés à trouver l'homme, le roi chevalier, le roi du début, derrière le saint. Ça, c'est une difficulté qu'on doit à la canonisation.
C'est ça. Et à l'image qu'on lui a donnée aussi.
Oui, exactement. Fait ce qu'il faut pour qu'il soit encore plus saint qu'il ne l'était.
C'est
potentiellement.
Ça. Et donc, ce cher Saint-Louis, il a quand même une très illustre lignée, quand même, puisque, on va le rappeler, il est quand même le petit-fils de Philippe Auguste. Il est le fils de Blanche de Castille. Quand même, qui joue un rôle, on le dira, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, qui joue un rôle très décisif quand même dans l'éducation de son petit roi. Et puis du coup, il y a Philippe le Bel aussi.
C'est son petit-fils.
Voilà, c'est le petit-fils.
Et son père, quand même, Louis VIII, était Louis dit le Lion. Hein, c'était un roi chevalier extrêmement réputé. Et sa fratrie aussi est très importante, puisqu'on dit d'Alphonse de Poitiers, son frère cadet, qu'il est vraiment à l'époque l'exemple parfait du chevalier courtois. Alphonse de Poitiers, on en reparlera un petit peu parce qu'il joue aussi un rôle politique important. Il sera roi de Sicile d'ailleurs. C'est l'archétype du roi chevalier, du preux. Hein, vraiment, c'est le preux. Alors que son autre frère, Robert d'Artois, lui, alors c'est un très bon chevalier aussi, mais c'est un peu le diablotin sur l'épaule de son frère, quelque part. Donc, c'est vrai qu'il a une fratrie aussi qui est très intéressante et qui va beaucoup l'influencer politiquement, en plus de son illustre maman, Blanche de Castille, qui va être quand même la première reine de France à exercer la régence.
Oui, c'est ça, être régente.
Chose qui n'existait pas et qui a été inventée pour elle. Parce que Louis, notre petit Louis, il ne devait pas monter sur le trône.
C'était pas prévu, mais je pense que Blanche de Castille a un petit peu œuvré pour que...
Il a surtout que ses frères aînés sont décédés, ses deux frères aînés sont décédés juste avant leur papa, donc et après Louis VIII est assez, dit le lion, donc quand même là aussi un homme qui en imposait, un très bon roi, moins connu, mais un très très bon roi.
Il est mort assez jeune aussi, du coup, de la vie.
Donc, du coup, le, voilà, de la dysenterie qui sera malheureusement une maladie qui va revenir assez souvent dans la vie de Saint-Louis. Hein.
Ben ouais, mes filles, ouais, c'est vrai que du coup, finalement, ouais. Il n'était pas destiné à être roi pour finir.
Non, ben non, il n'était pas destiné à être roi. Et c'est souvent comme ça qu'on a ben, des très grandes figures voilà, qui émergent. Parce que ce n'était pas leur destin et parfois le hasard ou comme on veut le nommer, la providence fait que ils deviennent rois. Quoi. Donc moi, c'est un roi que j'aime beaucoup. Que j'adore ouais, bah, personnellement.
On partage ça.
Mais moi j'entretiens aussi. Une relation forcément très ambiguë avec Louis IX, puisque Louis IX, c'est la fin de la croisade contre les Albigeois, et tu sais que c'est une histoire qui me tient extrêmement à cœur, et Louis IX va hâter la chute de Montségur. Alors, ce n'est pas vraiment de son plein fait, on va dire, puisque c'est... Bon, ben, on ne va pas parler trop de ça, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'intrigues à ce niveau-là. Mais Louis IX a toujours été, et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle le prud'homme, non seulement pour sa réforme judiciaire, mais surtout pour sa posture de toujours défendre ses sujets. Donc, certes, les hérétiques cathares sont des hérétiques pour un roi pieux, c'est quand même gênant, mais c'est ses sujets d'abord. Donc, il dit, je ne vais pas faire du mal à mes sujets. Et donc, il repousse vraiment le truc jusqu'au jour où les chevaliers fédits, donc ceux qui ont été privés de leurs terres, et notamment à leur tête Pierre-Roger de Mirepoix, décident d'assassiner des inquisiteurs, ce qui n'est pas forcément une bonne idée à avignonner. Et là, il n'a plus le choix, quoi.
Il a tranché. Mais du coup, peut-être pour rappeler les Albigeois, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, enfin, qui sont les Albigeois. Voilà, peut-être du coup, tu peux en dire, parce que toi, tu connais quand même vraiment super bien le sujet.
Ouais, moi, c'est vraiment ma période de prédilection. Donc, les Albigeois, c'est le nom francisé donné aux hérétiques cathares, qui, entre eux non plus, ne s'appelaient pas cathares, mais qui est une hérésie, en fait, qui a occupé une très, très grande place dans l'histoire et la politique du Languedoc de l'époque. Languedoc de l'époque qui, donc, n'est pas rattaché au Royaume de France, qui est indépendant et qui dépend de la couronne espagnole d'Aragon, les grands barons du Sud, dont Raymond VI de Toulouse, cousin de Blanche de Castille, très important, et les comtes de Carcassonne, les Trincavel, ne sont pas vassals du roi de France. Ils sont vassaux du roi d'Aragon. Et donc, Louis VIII, déjà le papa de Saint-Louis, avait entamé via un petit peu ce problème d'hérésie qui se répandait dans c'était un peu le prétexte pour essayer de rattacher cette grande part du Languedoc au royaume de France. Et c'est Louis IX qui va achever la tâche de son papa et qui va unifier et rattacher.
C'est Louis VIII qui faisait cette croisade contre les Albigeois.
Oui, contre les Albigeois, tout à fait, à la demande du pape, à la demande de Grégoire IX. Hein, c'était pas uniquement de son fait non plus. Mais c'est vraiment quand même un gros prétexte politico-religieux pour rattacher une grande part du royaume à la France qui lui échappait jusque-là, et notamment, très important pour Saint-Louis, puisqu'on va forcément parler des croisades, offrir au royaume de France une ouverture sur la mer Méditerranée, qui est toujours commercial, d'échange, etc., extrêmement importante. Et donc, il n'y avait pas cette ouverture. De l'autre côté, on a l'Aquitaine qui ferme l'Atlantique, qui appartient au Plantagenet côté anglais. Donc, c'était très, très important aussi pour les rois de France de retrouver cette ouverture sur la mer, dont ils étaient quand même pas mal privés.
Très bien. Voilà. Et bien, merci pour cet éclairage. Du coup, on a un petit Louis IX. Enfin, du coup, son père meurt, ses frères aussi. Il a 12 ans, il se retrouve couronné, du coup, même s'il ne devait pas.
Sacré à Reims, ouais.
Voilà, sacré à Reims, même si il y a quand même pas mal de barons qui qui voyaient ça d'un mauvais œil, on va dire. Que la mère puisse être régente, Blanche de Castille.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La régence de Blanche. Alors, ce qui est très marrant, ce que j'ai noté, c'est vrai que Louis n'a que 12 ans. Et par contre, il est sacré à Reims. Et on va en même temps l'adouber rapidos. J'ai trouvé que c'était assez marrant parce qu'effectivement, il est trop jeune à l'époque. Normalement, l'adoubement arrive plutôt vers les 15-16 ans, plutôt autour de 15 ans, quand le jeune chevalier a quand même déjà fait 2-3 ans en tant qu'écuyer, etc., ou quelques mois auprès de son futur seigneur. Et là, vu qu'il est couronné, qu'on ne peut pas être roi sans être chevalier, on va la doubler aussi tout de suite, voilà, dans la foulée. Et ça me fait toujours penser à Kaamelott et à Perceval qui n'est pas adoubé, qu'on a doubé vite fait dans un petit coin.
Dans un coin.
Histoire de dire qu'il a bien été adoubé, quoi, le pauvre. Mais ça n'empêchera pas de se montrer un chevalier extrêmement...
Un
proche chevalier, un roi chevalier.
C'est ça. En fait, c'est ce qui est assez fascinant dans la figure de Saint-Louis, c'est qu'il est à la fois... un bon roi quand même, un roi et un chevalier, un guerrier quoi. En fait, on peut dire ça, que c'est un roi chevalier. Guerrier quand même, un vrai chevalier. Et qu'en même temps, il est très pieux. Je pense que c'est quand même très, aussi très quelque chose, c'est aussi pour ça qu'il a été canonisé, hein, mais il est quand même, il a une ligne directrice qui est quand même extrêmement ferme et très très proche de la religion. Quoi. Et ça lui vient d'ailleurs de sa mère, encore une fois, Blanche de Castille. Une espagnole un petit peu un petit peu dure, un petit peu voilà, un petit peu fière, mais qui
elle va tenir la régence de manière assez forte. Et effectivement, comme tu disais, les barons vont pas forcément apprécier de se faire gouverner par une femme et, tu viens de le dire, par une étrangère. Hein, elle est espagnole d'origine et en plus d'ascendance plantagenée, puisque sa maman c'est Aliénor d'Aquitaine.
Donc, c'est sa grand-mère.
Sa grand-mère, oui, pardon. Donc, je sais pas pourquoi à chaque fois. Tu m'as déjà corrigé en plus.
C'est sa petite fille. Elle va aller la chercher en disant qu'elle... Justement, ça m'avait marqué. C'est vrai que Aliénor d'Aquitaine va chercher Blanche de Castille. En fait, elle va en Castille, justement, pour choisir l'une de ses deux petites filles. Blanche, c'est la plus jeune. Et il y en a une autre qui est plus âgée. Mais Aliénor pressent vraiment chez Blanche de Castille la poigne, en fait. La poigne nécessaire. Et oui, elle ne s'était pas vraiment trompée après.
Elle ne s'était pas trompée.
Parce que du coup, voilà. C'est elle qu'elle choisit, en fait, pour épouser... Ouais. Et du coup, le roi de France, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, les barons de France voient ça d'un sale œil. Et c'est vrai que le début du règne de Louis IX, en tout cas avec sa mère, est quand même marqué par pas mal de rébellions de barons, hein, justement. Je sais
D'autres grandes rébellions de barons, et notamment avec la première qui mêlera notamment les comtes de Champagne, avec lesquels ils se réconcilieront par la suite. Mais oui, les barons voient d'un œil assez mauvais le fait d'être gouvernés par une femme et un enfant, hein, faut le dire clairement. Mais en habit stratège, Blanche va vraiment réussir à négocier avec eux.
Puis elle a réussi à pacifier tout ça et à les rallier, les rassembler. Enfin, elle a quand même réussi un sacré tour de force.
Oui, Blanche, et il faut aussi souligner... De toute façon, Blanche, elle aura son épisode, hein, comme c'est incontournable. Mais il faut souligner que, effectivement, lors de la première croisade, ce sont les habitants de Paris, les soldats et la garnison parisienne qui vont venir au secours de Louis IX et de Blanche, qui sont quasiment prisonniers, hein, des barons. Et du coup, ils vont venir les chercher et ils vont les rapporter en triomphe dans Paris demain. Et ça va encore plus légitimer la figure royale en Saint-Louis.
Et je pense que ça va aussi faire, enfin, en tout cas, ça va marquer aussi Louis, Saint-Louis, et faire de lui un roi quand même assez proche de son peuple. J'ai l'impression quand même d'une certaine façon, il se sent un peu redevable aussi. Enfin, c'est quand même un roi qui est très, très proche de son peuple et qui reste quand même assez simple. Enfin,
Et c'est surtout un roi qui va, du coup, avoir à cœur tout au long de son règne, comme tu dis, de protéger son peuple, de le mettre en sécurité et surtout d'unifier le royaume. Il va se mettre à détester quand même cette France féodale qui est divisée en plusieurs baronnies, seigneuries, avec ce contre-pouvoir très fort au pouvoir royal, hein, finalement. Et donc, lui, il va s'ingénier vraiment à mettre quasiment un terme à tout ça en unifiant vraiment la France. Et l'un des plus gros exemples, on l'a dit, ça va être le Languedoc, avec le rattachement des comtés de Toulouse et des comtés de Carcassonne et de Provence à la couronne de France, puisqu'il va épouser la petite Marguerite de Provence, la fille du grand duc de Provence. Et il mariera également donc le petit Alphonse de Poitiers, tout mignon, tout gentil, avec l'unique héritière des comtes de Toulouse, la nièce de Raymond Toulouse, qui s'appelle Marguerite également. Et donc là, vraiment, il aura la Provence et le Languedoc toulousain dans la poche dans la dot hein, de ces deux petites Marguerites qui viennent à la cour. Et donc Marguerite de Provence, elle est toute mignonne et toute gentille.
Et, ils se plaisent bien l'un l'autre,
bien que Louis IX, exemple de piété, les chroniqueurs nous le rapportent, et même Jean de Joinville, qui sera vraiment le sénéchal de Joinville, un très grand ami de Louis IX qui a fait une vie de Saint-Louis qui est juste géniale.
C'est son biographe, non ?
C'est son biographe, ouais.
Jean de Joinville, donc, pour ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin. Mais...
Donc la nuit de leur noces, il ne va pas la toucher. Et il ne va pas la toucher pendant les trois nuits qui suivent, de manière à respecter en fait un des préceptes de la Bible, de l'Ancien Testament, qui s'appelle les nuits de Tobie, où apparemment on n'a pas le droit de consommer le mariage tout de suite pendant les trois nuits qui suivent. Mais elle portera quand même, Marguerite, plus de 11 enfants pour Louis. Oui. Donc c'est que, normalement, quand même, ils ont réussi à s'entendre.
Ils ont réussi sur ce point-là. C'est ça. Mais du coup, voilà.
Malgré la très grande jalousie de
Blanche de Castille. Oui, la jalousie de Blanche de Castille, même, ça c'est quand même quelque chose qui marque. Ouais, j'avais noté qu'elle avait 11 enfants, 5 filles, 6 garçons, qu'ils étaient plutôt très amoureux, effectivement. Mais qu'on avait derrière une belle-mère qui était dans les couloirs du château, là, une Blanche de
qui
Castille.
Qui se cachait dans les rideaux de la chambre de son fils. Donc il allait plutôt. Ouais, il allait plutôt chez elle, il allait plutôt chez Marguerite pour faire sa petite affaire par les couloirs cachés du Louvre et de Vincennes, parce que sa mère l'attendait au coin de la au
non,
coin
du couloir
pour lui dire où tu vas. Le gars a 40 ans quand même, il avait toujours sa mère sur le dos.
Sa mère collée au basque, et puis t'imagines, elle le regardait quand même. C'est elle qui avait arrangé le mariage, mais finalement elle regardait quand même sa belle-fille d'un sale œil quand même.
D'un sale œil, d'un assez sale œil. Alors Marguerite, je pense, a eu la chance du coup d'être très prolifique, d'être très féconde. Je pense que si elle avait, malheureusement pour elle, eu du mal en plus à concevoir, alors là, ça aurait été juste l'enfer pour cette pauvre jeune femme.
Au moins, elle a bien exercé sa fonction de reine, du coup.
Elle a très bien exercé sa fonction de reine. Et moi, j'ai toujours lu qu'elle était un peu gentille, un petit peu une reine douce, comme ça, une figure un peu maternelle. Mais on en parlera plus tard, c'est elle qui va tenir Damiette.
Son rôle durant les croisades est quand même...
Elle va faire un coup qui est assez bien joué politiquement. C'était pas une petite imbécile, c'était quelqu'un au contraire
qui
était
assez fin. Dans la tête. Elle en avait puis c'était pas juste une petite mignonne.
Exactement.
Une petite mignonne.
Il faut lui rendre justice sur ce point-là. On y viendra après quand on parlera de la croisade. Donc c'est vrai que Saint-Louis, une fois quand même marié et une fois majeur, il va quand même prendre très très vite la suite de sa mère et il va pas trop non plus
lui laisser.
Il va toujours la garder quand même proche, il est très très proche d'elle et puis il écoute ses bons conseils.
Et son avis compte, l'avis de sa mère compte pour lui.
Mais il va quand même très très vite prendre les choses en main et c'est vrai qu'il va commencer par vraiment la réforme de la justice royale qu'avait déjà entamé son père et ça va être un des plus grands réformateurs judiciaires. C'est vrai qu'on a cette image d'Épinal de Saint-Louis qui rend la justice sous le chêne de Vincennes. On a tous vu ça à l'école, mais derrière cette image, il y a une vraie vérité, une vraie volonté d'asseoir la justice royale comme un incontournable et d'arrêter là aussi la justice féodale en elle-même, notamment les guerres privées et les vengeances privées qui seront totalement interdites, la pratique de Lord Daly qui va interdire
Lord Daly, c'est ça, tout à fait. Il faudra peut-être et du coup rappeler ce que c'est, mais
Lord Daly ou jugement de Dieu, si vous voulez un très bon exemple, il y a le film, très bon film d'ailleurs, The Last Duel avec Matt Damon et puis sur le duel Carouche-Legris.
Je ne connais pas. Merci pour la référence. Non, j'ai pas vu.
Il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est une très belle reconstitution, honnêtement, très très sympa. Et en plus, on suit quand même à un moment aussi la vie ou la vision en tout cas de Marguerite de Carouge, donc c'est très intéressant. Encore une Marguerite. Et du coup, c'était des soit par duel à mort, donc Dieu décide si tu as dit la vérité ou si tu as menti, ou alors des formes plus simples de si tu dis la vérité et qu'on te plonge dans l'eau main attachée avec des paupières, Dieu va forcément te sauver, donc tu seras donc c'était une forme judiciaire par contre ça comptait judiciairement, c'était pénalement reconnu par la loi que Ben, le jugement de Dieu valait jugement. Donc, Saint-Louis va dire, bon, moi, j'aime pas trop qu'on mette mes sujets dans la flotte ou sur les bûchers.
Ouais, c'est ça. Qu'on les torture, hein, parce que...
Ouais, ça, il aimait pas. Il aimait vraiment pas. Et d'ailleurs, c'était ce qui l'avait poussé quand même à mettre un gros frein à la croisade dans le Languedoc contre les Albigeois, parce qu'il en avait marre de voir l'Inquisition élever des bûchers puis brûler des chrétiens. Hein. Lui disait, moi, je suis chrétien, donc je ne vais pas m'en prendre à mes sujets, c'est débile. Et il va renouveler également ce qu'on appelle la quarantaine le roi. Donc ça avait déjà été institué par son père. C'est un délai de 40 jours quand deux seigneurs, par exemple, se disputent pour une question d'honneur, une question de terre, une question de mariage ou dommage lige, donc dommage vassalique non rendu ou mal rendu, de dire non, vous avez 40 jours pour réfléchir. Et si dans 40 jours, vous êtes encore énervé, vous pourrez vous taper sur la gueule. Mais avant, d'abord, vous réfléchissez.
Voilà, c'est bien quand même. C'est vrai qu'il fait appel à... Voilà, il est moins il est pas barbare. Il a fait appel du coup à un petit peu à... Voilà, la réflexion, tout ça, mais...
Tout à fait. Et il institue également quelque chose qui sera l'ancêtre vraiment des cours d'appel. On appelle ça la supplicatio. C'est-à-dire que si tu as un litige qui t'oppose, toi, simple paysan, à ton voisin ou même ton entre-seigneur, tu peux faire appel en dernier ressort à la justice du roi.
Du roi.
Au roi, carrément, à l'arbitrage du roi. Et c'est ça qu'on a gardé, en fait. Hein. C'est l'image de Saint-Louis sous le chêne qui tranche les litiges et qui reçoit ses sujets pour rendre la justice. C'est ça, c'est cette supplication, cette possibilité en dernier recours de faire appel à l'arbitrage du roi. Voilà,
il devait avoir un peu de taf quand même. Parce que...
Il avait pas mal de taf, surtout que du coup, cette réputation va dépasser les frontières et il sera appelé à arbitrer des très gros litiges européens, notamment avec son grand ami et l'ami du pape, le fameux Frédéric comment il s'appelle, de Habsbourg, non, de Bavière.
De Bavière.
Hérétique, celui que les papes ne pouvaient pas encadrer parce qu'il était copain avec les musulmans. Donc voilà, il sera appelé quand même à gérer plusieurs litiges comme ça, aussi dans le Brabant, avec les ducs de Brabant qui se faisaient la guerre, etc. Voilà, il sera appelé en tant qu'arbitre, en fait. Hein,
c'est écrit, bah, dis donc.
Vraiment un rôle qui va lui tenir très très à cœur de ce rôle de roi justicier, de roi.
J'imagine que c'est aussi une part qui te plaît, enfin par rapport à ton métier, ou en tout cas j'imagine que c'est aussi une part qui te plaît chez Saint-Louis, ce côté roi justicier, quoi, quand même. C'est pour ça qu'on l'appelle le prud'homme aussi, d'ailleurs.
Tout à fait.
Voilà. Le fait du coup d'avoir bien ordonné la justice, en fait, et créé toutes les prémices d'une justice vraiment de la justice qu'on
organisée,
connaît à l'heure actuelle, en fait, hein, vraiment organisée.
Oui. Parce qu'il va aussi créer les institutions que sont les sénéchaux au nord et les viguiers au sud, qui sont ses émissaires, ses juges, en fait, royaux, hein, qui vont du coup prendre les affaires de justice dans les seigneuries. Toujours pareil, pour essayer quand même, à visée politique, hein, de couper l'herbe sous le pied des gros barons locaux et des gros seigneurs terriens locaux, pour leur montrer que d'abord, il y a le roi et après, il y a Dieu. Donc, en premier lieu, ils rendent des comptes à qui ? Ils rendent des comptes à leur roi, à Louis IX. Donc, c'est vraiment une force. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que c'est en parallèle un roi bâtisseur.
Non, mais j'allais le dire. J'allais avancer là-dessus. Bah, tu vois,
il a vraiment... Il a tous les talents.
C'est ça. En fait, il pacifie le royaume. Il ordonne un petit peu tout ça. Il sort un petit peu de la barbarie et de la féodalité. Et en même temps, du coup... C'est quand même le roi des cathédrales, quoi. C'est quand même le roi des...
Chapelle.
C'est ça, un roi bâtisseur extraordinaire. Enfin, il faut dire que le XIIIe siècle, c'est quand même un siècle très, très... Enfin, c'est un siècle d'or, quoi. C'est quand même le temps Le XIIIe siècle, c'est quand même un des plus beaux siècles de l'histoire tout entière, moi, je trouve.
Ah ouais, c'est un superbe siècle. Mais comme tu dis, l'Europe est quand même assez pacifiée à ce moment-là. Bon, on a quand même des guerres, hein, il ne faut pas exagérer. Puis on a les croisades, c'est encore le temps de croisades. Mais vraiment, et surtout particulièrement en France, grâce à l'accent de Saint-Louis et un petit peu avant lui de son papa, la France est un royaume extrêmement prospère. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Il va d'ailleurs créer une monnaie unique qui fait que là aussi, bah, tous les barons qui battaient monnaie dans leur petit coin et tout, c'est terminé. Donc, on a une monnaie unique qui va là aussi s'appliquer, hein, le louis. Voilà. Et donc, il va ériger la Sainte-Chapelle en 1241. Enfin, faire ériger, il ne va pas le faire lui-même avec ses mains. Mais la Sainte-Chapelle, c'est juste un des plus beaux monuments de l'art gothique.
C'est un bijou. Monde
entier. C'est vraiment un écrin. Et il l'a construit comme ça, il l'a pensé comme ça pour servir d'écrin aux reliques de la Passion. Qu'il achète extrêmement cher à Jean II de Constantinople, qui en fait les a déjà vendus aux Vénitiens parce qu'il n'a plus de pognon. Venise. Il va envoyer des émissaires jusqu'à Venise pour les payer au final deux fois le prix. Donc, mais il a quand même la couronne d'épines qui est toujours dans le trésor de Notre-Dame. S'il faut voir ces vitraux.
Moi, c'est ce qui m'épate aussi chez les rois de ces époques.
C'est un édifice incroyable, la Sainte-Chapelle. C'est magnifique. Quoi. C'est vraiment magnifique. J'encourage tout le monde à aller la visiter. Elle est au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, juste à côté de la Conciergerie. Et en fait, elle est dans le palais de justice, hein, dans la cour de cassation, ce qui est aujourd'hui la cour de la cour de cassation. Mais vraiment, si vous passez par là, n'hésitez pas. Et si vous avez de la chance qu'il fasse soleil, c'est juste incroyable.
Baigner de lumière avec les vitraux, ça doit être quelque chose.
Sublime, les vitraux sont sublimes. Et il y a cette châsse toute peinte d'or où il y a la couronne d'épines, même sans être aussi pieux que l'été Saint-Louis, c'est très impressionnant.
Puis
c'est un roi qui bâtit des citadelles et des remparts. Et donc ma ville.
On peut pas passer à côté, quoi.
Aigues-Mortes. Donc, Aigues-Mortes, c'est vraiment une de ses plus belles réussites. Incroyable. Les remparts sont magnifiques. Il fait creuser le canal du Gros d'Aigues-Mortes. Donc, aujourd'hui, Gros du Roi, d'où les nefs prendront la mer pour la Terre Sainte. C'est juste, c'est juste magnifique. Quand il y a ce coucher de soleil sur les étangs du haut des remparts d'Aigues-Mortes, c'est incomparable.
Un jour, il faudra que j'aille faire un petit tour.
Moi, chaque fois que j'y vais, je pense forcément à eux, surtout que la figure de Saint-Louis est encore très, très présente. On fête la Saint-Louis au mois de juin tous les ans. Là, il y avait le Covid, mais je sais que cette année, ça va reprendre. Donc, il y a quasiment un week-end ou trois jours de festivités complètes dans la ville de Aigues-Mortes. Et il y a encore des plaques partout. Bon, il y a sa statue, bien entendu, mais il y a ces plaques commémoratives des départs de croisade. Moi, je trouve ça hyper émouvant.
On rappelle, il a fait construire ce port, cette forteresse, pour pouvoir prévoir et organiser, du coup, le départ des croisades. Du coup, c'est quand même... ça a pris quoi, 2 ans? 2 ans de construction?
Ça a été fait assez rapidement.
Oui, c'est ça, quand même, ça n'a pas été
si... c'est assez incroyable.
Ça a été mené tambour battant, quand même.
Il a dû acheter les terres à des moines qui étaient là. C'était une abbaye qui s'appelait l'abbaye de Psalmody. Et donc, il achète toutes ces terres. Et en fait, c'est des terres très marécageuses. Hein. C'est le bord de la Camargue, c'est la petite Camargue. On est vraiment très près de la mer. Et il y a ces étendues d'étangs saumâtres qui sont quand même... C'est une région qui est quand même riche parce qu'on extrait le sel. Déjà à l'époque, les sauniers de Saint-Gilles occupent le coin et ramènent le sel. Donc, par exemple, à Saint-Gilles, qui est une ville qui est très riche à l'époque et qui donnera 2 papes. Donc, c'est vraiment une ville importante. Et donc, il veut cette ouverture sur la mer parce que, toujours pareil, pour le moment, le Languedoc, etc., ce n'est pas vraiment à lui. Et si on prend la Provence, etc., ce n'est pas non plus à lui. Donc, il veut sa ville, sa cité portuaire, son port de Méditerranée. Et donc, il construit carrément tout le truc.
Toute la cité, les remparts.
Ils font avec des murs de plus de 3 mètres d'épaisseur. Et puis, le petit château, donc la petite tour. Donc, on dit tour de Constance aujourd'hui, mais qui ne s'appelait pas comme ça avant. C'est vraiment un exemple d'architecture en plus militaire extrêmement intéressant.
Mais c'est ça, il fait construire des forteresses, des cathédrales, des abbayes, des hôpitaux. C'est assez fou, hein. Même du coup ce qu'il peut donner et faire et offrir à son royaume de France. Mais comme tu dis, c'est du coup À cette époque-là, le royaume était quand même très prospère. C'est un siècle d'or. Hein. Enfin, je pense qu'on peut dire vraiment, même vu les bijoux, les beautés qui ont. Enfin, c'est vraiment un siècle apparent. Enfin,
Oui,
exceptionnel,
puis
quoi.
grâce à sa mère, il a été assez malin pour se réconcilier avec les comtes de Champagne, qui sont extrêmement riches, les foires de Champagne, c'est les grandes foires de province, etc. C'est juste, c'est le cœur du commerce du royaume de France à l'époque. Et de l'autre côté, assez habile pour pacifier Toulouse, qui est aussi un énorme centre commercial, un centre d'échange, et en plus une ville de culture. Donc non, il est assez là-dessus, il est assez fin pour s'allier ces deux gros pôles commerciaux et en faire, au lieu de s'en faire des adversaires, ben en faire du coup des greniers et des richesses pour le royaume, ce qui va lui permettre du coup ben, de financer aussi ces deux grandes croisades parce que en bon roi pieux, il ne peut pas laisser Jérusalem indéfiniment aux mains des
Ben, c'est ça.
musulmans.
Et du coup, alors toi, tu as un roman qui prend place dans cette période-là, Les Mirages de Terre Sainte, que je suis en train de lire en ce moment, que je recommande à tous parce que vraiment, c'est extra, franchement. Je trouve que tu allies assez habilement ben, la fiction et l'histoire, en fait, tout le contexte. Et ça permet vraiment d'avoir une belle vue, justement, de cette époque-là. Mais voilà, du coup, j'ai peut-être te laissé en parler aussi bah, de cette croisade-là, du coup.
Ben moi, c'est vrai que les mirages, du coup, se passent pendant la première croisade de Saint-Louis, donc la septième croisade. Il faut savoir, on en a parlé un petit peu, effectivement, Saint-Louis a perdu des parents, notamment des frères et son père de la dysenterie. Et c'est une maladie, alors on dit dysenterie, mais on n'est pas bien sûr, enfin à l'époque aussi, on parle de suette. Voire de peste, hein, carrément. Bon, c'est pas encore les épidémies de peste comme on va en connaître après au XIVe, mais voilà, c'est une maladie qui revient régulièrement. On a peut-être aussi soupçonné qu'il y avait une part de paludisme, et quand tu vois voilà, les marécages d'Aigues Mortes, par exemple, c'était des endroits où il y avait forcément des fièvres et du palud, des choses comme ça. Et bah, Saint-Louis tombe très très malade en
Ah mais oui.
1244.
Ah mais oui, je me souviens de cet
Très
épisode.
malade.
Oui, complètement.
On pense que c'est la
La fin.
dysenterie, mais effectivement, on le croit mort. Hein, on
Ouais,
le
c'est
croit
ça.
mort. Voilà, il tombe malade le 10 décembre. Le 14 décembre, on en est à appeler le chapitre de Notre-Dame, le chanoine, pour qu'on vienne lui donner à Pontoise
L'extrême onction,
l'absolution,
quoi.
hein, les derniers sacrements. Hein, il est vraiment, vraiment porte de la mort, hein, donc vraiment, alors là, dans tout le camp, dans toute la France, c'est un roi quand même qui est très aimé de son peuple. On fait des processions. Blanche de Castille organise vraiment tout ce qu'elle peut. Elle fait venir les reliques de la chapelle auprès de lui. C'est vraiment tout le monde croit qu'il va mourir. Et un matin, ces dames de compagnie le trouvent dans le lit. Voilà, elle pense vraiment qu'il est mort. Alors, Jean de Joinville raconte ce moment. Il était déjà, à l'époque, il était près de lui, mais il n'était pas encore sénéchal. Il voit Saint-Louis dans coucher. Il est persuadé que son ami est mort. Il le raconte dans sa vie de Saint-Louis. C'est un moment qui est très poignant pour lui.
Ben oui, tu m'étonnes.
Et une heure après, le roi est sauvé.
Ouais, c'est fou, hein. Alors là,
Il se lève, il
oh,
va mieux, il
le
mange.
miracle.
Alors, Jean de Joinville le dit, il dit, c'est miraculeux. Il dit, moi, je l'ai vu. Alors après, il exagère sûrement pour qu'on puisse canoniser futurement le roi, mais il le dit lui-même, il le raconte vraiment dans sa biographie qui est vraiment très intéressante. Il dit, il recouvre la santé, mais en quelques heures, c'est un véritable miracle. Et Saint-Louis lui-même croit à ce miracle et fait le vœu, bah, puisqu'il est guéri,
Voilà, d'aller en croisade,
de
quoi.
partir en croisade, libérer Jérusalem. Et c'est le point de départ de cette septième croisade, de la première croisade de Saint-Louis. Donc, départ d'Aigues Mortes en 1248 pour Chypre, première étape où
Oui.
les croisés font escale. Alors, en plus, c'est intéressant parce que depuis quelque temps déjà, toi, je sais que tu écris sur la croisade des rois. Donc, tu as une route terrestre.
Oui, c'est
C'est
ça. Il y a une
un
voie
voyage très très
terrestre.
long. Voilà, un voyage très très long. Presque un an, je crois bien,
Oui,
quasiment. Là, on a 20 jours de mer pour
Chypre. Ouais, c'est ça.
Donc, et Saint-Louis, en plus, comme il a de l'argent, hein, il en profite, il fait construire tous ses bateaux en Norvège.
D'accord.
Parce qu'il sait, par ses cousins
Que y a des bons bâtisseurs aussi,
ouais,
là, chez les...
Les bateaux, notamment
Vikings, quoi.
Sont extrêmement résistants. Donc, il fait construire tous ses bateaux en Norvège. Il les fait venir par la côte atlantique jusqu'à Egmont. Et là, les nefs
du roi de France
vont partir au départ d'Aigues-Mortes. Alors, c'est un passage, j'avais pas de chance, que Jean de Joinville ne raconte pas, parce que Jean de Joinville, lui, il est avec ses cousins du côté de l'Aquitaine, il veut partir avec eux, et ils partent de la Roche de Marseille presque une semaine après le roi.
D'accord.
Donc, il s'en est toujours un peu voulu de ne pas avoir fait ce voyage avec le roi. C'est vraiment des potes, hein. C'est des copains de garnison, des amis comme ça. Il faut vraiment le lire, quoi. C'est vraiment super. La façon dont il raconte ça, c'est comme, ouais, il était très proche, quoi. C'était vraiment des potes. Et donc, Saint-Louis, ils prennent le départ, ils se retrouvent à Chypre. Et là, ils décident d'hiverner à Chypre et de décider un petit peu comment ils vont se goupiller. Et c'est là qu'ils font clairement une première erreur stratégique en décidant de se diriger vers l'Égypte. Mmh. Chose que la précédente croisade, donc la sixième, avait déjà tentée. Et où Jean II, le roi à l'époque des États latins d'Orient, s'était cassé les dents. Donc, toute l'Égypte est aux mains des Ayoubites qui tiennent aussi donc, le Caire et Jérusalem. Mmh. Et en fait, ce sont des émirs de Damas. Donc, ils ont vraiment un royaume, un sultanat très, très, très,
très, très étendu.
Ouais. Et à l'époque, le sultan Al-Sali Ayoub, donc c'est un des derniers descendants de Salah ad-Din, celui qui a pris Jérusalem, mm-hmm. un grand roi Saladin. Donc, c'est un de ses derniers descendants. Les Ayoubites sont un peu sur la fin quand même. Hein. Ça sent un peu déjà le roussi. Et ce Al-Sali Ayoub, c'est quand même un fin politique, mais il est très malade. Mm. Il est très malade, mais il a de la chance. Il a une femme qui est formidable,
voilà.
qui s'appelle Shajar al-Durr. Arbre de perle.
Qui a un rôle dans ton livre, d'ailleurs.
Qui a un rôle dans mon livre, voilà. Et donc, Shajar al-Durr, en fait, elle trouve une astuce et elle donne un peu le change, parce qu'il est vraiment très, très malade. Il va finir par mourir, d'ailleurs. Et donc, en fait, en sous-main, elle prend les rênes. Mm. Son fils, Tulancha, n'est pas encore nommé. Donc, elle va faire tout ce qu'elle peut pour faire durer son mari le plus longtemps possible. Ou en tout cas, pour qu'on croie qu'il a encore...
qu'il est toujours...
Qu'il est toujours vaillant.
En capacité.
Voilà. Donc ça, par contre, le roi Saint-Louis, il n'est pas forcément au courant. Et donc, il décide d'attaquer l'Égypte pour aller sur la première capitale des Ayoubides, qui est le Caire, au cœur de leur royaume. Donc, il va commencer par la prise de Damiette. Tout le monde lui dit, ouais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Parce que la dernière fois, le siège de Damiette, il a duré des mois. C'est une ville qui est très fortement fortifiée, qui est très riche, qui peut recevoir énormément de renforts et de revivre de l'arrière. C'est hyper difficile. Et le roi dit non, on y va, poussé un peu par Robert d'Artois, son fameux frère. Ils décident, ils y vont. Et ils arrivent en juin devant les remparts de Damiette. Et là, la ville est prise en deux jours.
Victoire
exceptionnelle. En fait, il est dit vraiment, alors là encore, c'est Jean de Joinville qui le raconte, et je le soupçonne d'être un petit peu partial, mais je l'aime beaucoup, donc je lui accorde quand même du crédit. Ce qui est vrai, c'est que le roi prend la tête directement du premier assaut de fantassins, à pied, les premiers gars qui débarquent sur la plage de Damiette, sous les flèches des Mamelouks et des Ayoubides, et il se jette à l'eau en armure avec son nom de femme et sa lance, le gars.
Purée.
Vraiment.
Et en fait, va quoi.
En face, les gars se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Eux, ils ont leur sultan qui est bien planqué à l'arrière, qui est malade, et puis le commandant de la place forte qui n'est pas du tout en train de combattre. Et on lui dit, non, mais gars, il y a le roi en face. C'est le roi qui vient de sauter, qui nous court dessus avec sa lance. Donc, les mecs sont dégoûtés et ils lâchent l'affaire et ils se barrent. Ils abandonnent la ville.
Ah ouais, ils ont été impressionnés par Saint-Louis.
Ils ont été impressionnés par, d'abord, la force de la cavalerie franque, qui, depuis les toutes premières croisades, a une réputation en Terre Sainte horrible. tout, malgré l'extrême habileté hein, des cavaliers mamelouks notamment et sarrasins, la cavalerie franque, c'est quelque chose qui fait très peur. Mmh. Ils se souviennent tous du siège d'Antioche, de grandes batailles comme ça. Voir comme ça, d'un coup, les mecs qui débarquent tous en armure, machin, gueulant, ils se disent « Merde, qu'est-ce qu'on fait ?» Ils sont derrière les remparts et ils s'en vont. Ils quittent la ville et ils l'abandonnent. Et donc, la ville est prise en très, très peu de temps. C'est une immense victoire. Et là, par contre…
Et oui, du coup, ça va aller… Ils vont se sentir…
Alors, ils vont se sentir… Ce n'est pas trop l'ambiance de Saint-Louis de se sentir quand même victorieux comme ça. C'est plus l'ambiance de ses barons. Et puis surtout, le temps tourne hein, parce que la croisade, c'est limité dans le temps. Hein. Mm. Les mecs ont prêté serment, ils viennent. Mais ce n'est pas pour toute la vie. Hein. Il y a 40 jours, 40 nuits et après, on rentre chez Mémé. Donc, c'est vrai que c'est… C'est pas, il se dit bon, il faut vraiment que je fasse que je continue tant que j'ai la baraka. Et une question se pose. Donc les barons sont plutôt pour marcher sur Alexandrie et dire comme ça on prend toute la côte et on leur coupe vraiment le rapport avec Damas et Jérusalem qui sont de l'autre côté, hein, puisqu'on est au bord de l'Égypte.
Mais comme ça,
et
du coup,
Robert d'Artois lui dit mais non, on est en force, on est plein de gouache, on est bon, on y va. Le Caire, il faut tout de suite prendre le Caire tant qu'on a l'avantage. Il faut foncer, il faut y aller. Bon, ça se défend. Ça se défend et Saint-Louis va écouter son frère plutôt que ses barons. Et donc, par contre, ils vont rester pendant très, très longtemps coincés dans Damiette parce que c'est la crue du Nil, quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément prévu. Mmh. Et donc, ils sont enfermés par le fleuve qui déborde de partout à l'époque. Alors, maintenant, il y a le canal de Suez, etc. Et les crues du Nil sont beaucoup moins impressionnantes que ce qu'elles pouvaient être. Mais il faut imaginer l'entièreté quasiment du pays sous l'eau. Hein. C'est quelque chose de très impressionnant et surtout de très gênant pour une armée.
Oui, tu m'étonnes.
Voilà, donc ça reste à Damiette. Ça fait un peu des conneries hein, parce que c'est quand même… y a quoi ? Il y a 6 000 fantassins à pied et quelques 3 000 cavaliers, chevaliers de la plus grande noblesse française avec parmi eux les chevaliers du temple, un petit peu d'hospitalier. Bon, ça se tabasse un peu. Quoi. C'est pas facile à tenir. Et puis, toujours dans son idée de justice, Saint-Louis a pas voulu renouveler les usages en termes de partage du butin, malgré, une fois de plus, l'avertissement de ses barons, et notamment de Jean de Joinville, qui a vraiment insisté en disant « Non, non, il faut continuer à faire comme on faisait, à savoir un tiers, deux tiers. Hein, donc, les plus gros ont le plus, et puis les plus petits ont moins. » Il veut pas, donc il répartit le butin de manière très équitable entre tout le monde. Hein, le plus petit, la plus jeune cantinière aura la même solde que le dernier des barons. Donc, ça passe pas bien. Et puis, ils s'ennuient, ils s'emmerdent, ils sont inactifs. C'est une armée en campagne, tu peux pas les laisser.
Voilà.
Donc, on marche sur le Caire. On marche sur le Caire.
Ils y vont.
Ils y vont. Et ils arrivent à un embranchement où il y a deux bras du Nil qui se séparent devant une ville qui s'appelle Al-Mansoura.
C'est ça, la Mansoura. La citadelle d'Al-Mansoura.
Voilà, la Mansoura. Ouais. Et donc, l'armée de Saint-Louis est devant la Mansoura. Ils construisent des ponts. Alors, ils construisent énormément. Ils construisent des ponts, ils construisent des tours, ils construisent ce qu'on appelle des chats-châteaux. Alors, moi, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai découvert en écrivant. Donc, ce sont des galeries de bois qui sont recouvertes pour protéger les sapeurs qui vont entamer les murailles d'une ville. Quand on fait une siège, ils construisent des tours de siège. Voilà, ils construisent énormément, mais il faut traverser ce bras du Nil quand même, donc il y a des ponts qui sont mis, etc. C'est un petit peu... C'est compliqué, c'est pas facile. Et Mansoura est très bien défendu, très bien défendu par un général qui s'appelle Baybar et qui est très malin. Et Baybar, il a un petit peu observé les choses et il envoie en amont de l'armée de Saint-Louis un émissaire à lui, un espion, un big espion, double espion, contre-espion, qui va dire à Robert d'Artois, « Hey, moi, je sais que là, vous pouvez passer, là. Il y a un guet, là. Hey, c'est du tout plus, les gars, vous pouvez y aller. » Et qu'est-ce que fait Robert d'Artois ?
Genre la bonne vieille russe, quoi.
Oui. Et ça marche. Ça marche.
Plus t'es gros, plus ça marche.
Et surtout avec un personnage comme Robert d'Artois, hein, qui est toujours dépeint vraiment comme le mec
un
sanguin,
fonceur, quoi.
Un fonceur un peu grossier. Bon, bref, il va voir son frère, il lui dit « Non, mais là, c'est bon et tout. » Saint-Louis n'est pas pour, il aimerait quand même qu'on finisse un peu de se préparer. Et en fait, au cours d'une ronde comme ça, où il protège les mecs qui sont en train de construire les ponts, tout bêtement, Robert d'Artois s'aperçoit que la porte à Almansoula est vide de garde. Il se dit « Putain, c'est bon. » Ils sont 300. Parmi eux, il y a une centaine de chevaliers de l'Ordre du Temple. Donc, le grand maître essaye de raisonner Robert d'Artois, mais avec son pote Foulque, ils se montent un peu le bourrichon et ils partent avec leur compagnie droit sur Almansoula. Ils y vont, ils rentrent dans la ville, ils prennent la ville. Ils prennent la ville pour 3 heures à peu près, parce que Baybar les prend en tenaille avec en fait les troupes qu'il avait ramassées depuis le Caire et il les massacre. Il les lamine totalement. Ils sont prisonniers de la ville. En fait, c'est une toute petite cité qui est très fortifiée avec des rues très étroites, etc., dans lesquelles une cavalerie ne peut pas manœuvrer. Donc, ils se font défoncer. Et Baybar en profite pour lancer l'offensive contre Lost. Et Lost est repoussé de l'autre côté du Nil. Ils perdent énormément de gens.
D'hommes, oui.
Et voilà, c'est une catastrophe. C'est, c'est une débandade.
Là, c'est un échec.
Débandade totale, ouais. Un échec total. Un échec à tel point que Saint-Louis va être fait prisonnier ses plus gros barons. Et que les Templiers vont se retrouver forcés de payer la rançon parce qu'il n'y a plus une thune.
Et ben voilà.
Et donc,
Et c'est là qu'intervient du coup sa petite femme.
Sa petite femme, qui restait à Damiette pour tenir le truc.
Mais je crois qu'elle était enceinte en plus.
Elle était enceinte et elle va accoucher, je crois, 2-3 jours après la défaite d'Almansoura du petit Jean Tristan.
Voilà.
Elle Jean Tristan. C'est
triste.
Son papa est prisonnier. Et elle accouche un peu dans l'urgence, ça c'est clair. Et tous les barons qui étaient restés en arrière à Damiette, et puis notamment les commerçants vénitiens et génois, veulent se barrer, clairement. Ils ont bien compris que ce n'était pas la peine. Et donc, astuce, elle va les recevoir couchés dans son lit avec le bébé contre son sein. Et elle va leur dire, vous ne pouvez pas abandonner une mère et son enfant.
Et ben voilà.
Je vais pas faire ça, c'est dégueulasse ce que vous êtes en train de faire. Les mecs ont honte, honte de leur vie et ils restent.
Bon.
Et donc elle va quand même négocier la reddition de Damiette contre le retrait des troupes, la totale reddition, et puis ils vont réussir à s'échapper,
à récupérer Louis.
Et donc ça va pas se faire tout de suite parce qu'il faut payer. Parce qu'il faut payer. Et entre-temps, en fait, Al-Sadi Ayoub est mort. Il est mort de non pas de sa belle mort d'ailleurs, il est mort très malade. Son fils est monté sur le trône, mais tout le monde le déteste, ce pauvre Touran Shah. Il n'a pas le temps de profiter de sa victoire sur Saint-Louis, qui se fait assassiner par sa garde mamelouk, dirigée par ce fameux Baybar. Baybar qui va rentrer dans la tente où est détenu Saint-Louis, qui refuse de manger depuis qu'il est prisonnier. Il veut être. On lui a prodigué tous les égards du rassemblement qu'il va refuser pour souffrir au même titre que ses barons prisonniers, notamment Jean de Joinville qui est très malade. Baybar rentre dans la tente et lui dit « Voilà, j'ai tué ton geôlier, j'ai tué ton ennemi, fais-moi chevalier. » Et il lui aurait répondu « Eh bien, je te ferai chevalier quand tu te feras chrétien. »
Et ben voilà, et toc.
Voilà. Et donc, quand même, ils veulent quand même récupérer leur roi. On demande des sous-sous aux Templiers. Les Templiers, ils ont quand même perdu beaucoup d'hommes. Ils ne sont pas du tout chauds pour donner l'argent, alors qu'ils l'ont. En tout cas, ils en ont une petite partie. Et c'est Jean de Joinville qui est dépêché sur place pour récupérer l'argent. Et là, on lui dit non, mais nous, on ne peut rien faire. Par contre, on ne peut pas vous empêcher de le prendre. Si vous voulez voler, voilà. Et donc Jean de Joinville va voler le pognon sur les nefs des Templiers et va le ramener au Turc pour libérer son roi. Et c'est comme ça que va prendre fin la croisade, vraiment un fiasco total.
Ouais, un fiasco.
Et ce qui n'empêche pas Saint-Louis de retourner à Saint-Jean-d'Acre triomphant, quoi. Il est accueilli comme s'il avait libéré Jérusalem, ce qu'il n'a pas du tout fait. C'est assez incompréhensible, mais il est très 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 bien vu dans les États latins. Il est très proche du peuple, une fois de plus. Il va fortifier toutes les
Entités, il reste un moment en Terre Sainte, en fait. Il reste
6 ans.
Oui, c'est ça.
Non, il ne rentre pas. Et je pense que sa relation avec Blanche de
Castille
n'est pas pour rien.
Oui, c'est ça.
Donc, il va rester un petit moment. Ouais.
Mais du coup, c'est vrai qu'il fortifie les villes d'Orient comme Saint-Jean-d'Acre, Jaffa, Césarée, je crois aussi. Il
Tripoli.
œuvre pas mal pour ses. Mais bon, il va être obligé de rentrer quand même à un moment parce que justement, bah, sa pauvre mère est sur sa faim quand même. Et même
Ah,
si
oui.
Sa relation avec sa mère n'y est pas, il l'aime quand même, sa petite maman, quoi. Donc, il décide de
Ah oui,
rentrer.
je pense que oui, il avait quand même une très profonde affection pour elle. Et il va rentrer un petit peu à reculons parce que ouais, parce qu'il est bien dans les états latins. Il est reconnu quasiment comme s'il était le roi hein, de Jérusalem. Hein. Il est traité quasiment de cette façon-là. Il arrive à bien s'entendre avec les Mongols, à créer des alliances qui sont intéressantes. Il lui propose même éventuellement une alliance contre les Ayyoubides qui sont en train de se déchirer totalement. Pour récupérer Jérusalem, il va refuser. Effectivement, sa mère va mourir, donc il va retourner en France. Voilà, il va retourner en France.
Ben voilà. Et bon, après sa croisade et puis la mort de sa mère, je crois qu'il devient encore plus ascète qu'il ne l'était déjà. Enfin, encore plus dévot, encore plus ascète. Voilà. Mais bon, il y a une autre croisade du coup?
Alors, il y a une dernière
Ouais,
croisade,
c'est
mais
ça.
avant, effectivement, comme tu dis, il rentre en France et il est encore plus pieux. Et
Ouais.
surtout, il s'est persuadé que l'échec de la croisade, il la doit à
C'était
l'état
ouais.
d'immoralité et d'impiété de son propre royaume. C'est pas sa faute à lui, c'est la faute du peuple qui est vraiment totalement immoral. Donc, il va serrer la
La
vis,
sirène, oui, c'est ça.
question mœurs
Il voulait
religieuses.
purifier le royaume, quoi.
Il voulait vraiment purifier le royaume, donc il va édicter toute une liste d'interdits. On va trouver l'interdit du blasphème, l'interdit de la prostitution, l'interdit des jeux d'argent et l'interdit de l'usure, donc des prêts avec intérêt. Et ça va le mener quand même à contraindre fortement, c'est un petit peu la fin de son règne, on est quand même sur la fin et ça se passe moyennement, ça se passe moins bien, hein, clairement. Et donc, il va s'en prendre aux Juifs, en fait. Assez
Ouais,
persuadé que
d'accord.
voilà la présence forte des Juifs en France, auquel il n'avait jamais accordé vraiment d'importance jusque-là, hein, est une des causes de son échec. Et notamment, il va vraiment essayer de convertir les Juifs de France de force au catholicisme et au christianisme. Il interdit donc l'usure, qui était quand même un métier qui était exercé par pas mal de personnes d'origine hébraïque. Mais en même temps, il les considère quand même comme des sujets. Donc, il ne tolère pas les violences à leur égard ou les pogroms. Il va condamner plusieurs personnes qui se sont livrées à des violences sur les Juifs. Donc, il est quand même assez protecteur. Et c'est vrai qu'il est resté, souvent on met ça en avant, dans l'histoire pour l'avoir fait porter la rouelle, donc un insigne
Oui,
jaune cousu sur
c'est
leurs
ça.
vêtements pour les distinguer, qui ne nous rappelle pas des bonnes heures. Mais c'est oublié que dans toute l'Europe, les Juifs sont forcés, pardon, de porter cette rouelle depuis le concile de Latran IV en 1215. Donc ce n'est pas du tout Saint-Louis qui l'invente.
D'accord.
Et il met quand même plus de 50 ans à appliquer la mesure en France. Et Alexandre IV, à un moment, lui fait même une lettre en disant: Oh, tu fais quoi là?
Tu ferais peut-être bien de ouais
Voilà.
d'appliquer la
Donc,
mesure toi aussi. Bon.
voilà, persuadé que quand même il y a là-dessous quelque chose qui ne va pas et qui fait qu'il n'a pas gagné sa croisade, il va prendre toute cette série de mesures et il va donc faire porter la rouelle aux Juifs. Et il va repartir en
En
croisade.
croisade.
Voilà. Mais
La
cette
dernière,
fois,
quoi.
la dernière. Et cette fois, il va prendre. Alors, il n'a plus le droit de retourner en Égypte par rapport au traité qui a présidé à sa libération. Et donc, il va mettre le siège sous Tunis, alors Carthage à l'époque, mais c'est les remparts quasiment de Damiette, de Tunis, pardon. Et là, il met le siège sous Tunis et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien non plus. Alphonse de Poitiers, son frère, va mourir d'ailleurs. Et toute l'armée est la proie d'une terrible épidémie.
Oui, c'est ça.
Visiblement, encore une fois, la dysenterie ou le palu. On n'est pas forcément bien sûr. Et le 25 août 1270, il rend son dernier soupir au pied des remparts de Carthage sans avoir pu entrer dans la ville.
Et
Mais
sans
malade, du coup,
avoir.
il est tombé
Ouais.
malade.
Tombé malade, ouais. Il meurt de cette maladie-là,
Voilà.
qu'on soupçonne être. Alors, est-ce que c'est la dysenterie ou est-ce que justement, c'est vraiment ces crises de palu qu'il a connues, tu vois, un petit peu toute sa vie et qu'on fait qu'il a été toujours un peu malade de ça et qui finiront par le tuer?
L'emporter, ouais, c'est ça.
Voilà. Mais en tout cas, il va mourir comme ça.
Bon,
Voilà.
ainsi finit notre beau et grand roi
Grand
Saint-Louis.
Saint-Louis. Et oui. Un peu tristement et
Un
un
peu
peu,
tristement.
ouais, après un règne vraiment
Bah, lumineux et
assez
majestueux, hein.
extraordinaire, hein, ouais, vraiment quand même un
Ouais,
sacré règne.
ça se termine un peu mal. Mais bon, c'est
Bah
vrai
oui.
qu'il a laissé de fortes empreintes dans l'histoire de France, dans l'histoire de la justice, dans l'histoire de la religion, dans l'histoire des croisades. Enfin, c'est vrai qu'il a quand même énormément marqué l'histoire de France depuis des siècles, quoi. Et puis bon, mine de rien, c'est quand même un des rois les plus emblématiques. C'est pas pour rien, je pense quand même qu'on a énormément de rois qui s'appellent Louis, quoi. Il y en a quand même chez les Bourbons notamment, enfin qui du coup voilà, ont une grande fascination pour cette
Oui.
figure de Saint-Louis. Mais voilà.
Qui est
Un grand
fascinante, on peut pas dire
ouais, qui est
le
vraiment
contraire.
fascinante, hein. C'est vrai, du
Quand
coup,
on
l'alliance
voit, ouais.
entre le roi, bah, comme tu dis, l'homme, le chevalier, le guerrier, le pieux, quoi, enfin le vertueux quand même, parce qu'il était quand même, on n'en a pas énormément parlé, mais il était quand même dans une quête de pureté
Ah
qui
oui.
était quand même énorme, enfin personnelle. Enfin, il allait à la
Ah oui.
confession, mais
Les
plusieurs fois.
croisades sont principalement nées
Voilà,
de ça, hein.
c'est
C'est
ça.
le
Grande, grande,
rêve
grande piété, mais comme on a du
d'obtenir
mal à s'imaginer
le
à l'heure
tombeau du
actuelle.
Christ, quoi.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Mais comme
Oui,
on a du mal
ça
à
existe.
s'imaginer à l'heure actuelle, ça nous paraît fou qu'on
Et
puisse. Ouais.
il faut imaginer que derrière lui, il y a des milliers d'hommes qui ont pris la croix en se disant, ouais, on va libérer Jérusalem, on
Non,
va
mais
récupérer le
oui.
tombeau du Christ. Enfin, c'est quand même, pour eux, à l'époque, c'est énorme, quoi. Et puis, en
Ça.
plus, ils sont persuadés que ça leur garantit l'entrée du royaume de Dieu, hein.
Oui,
Donc,
c'est
c'est
ça.
pas rien
Ben
pour eux.
oui, non, c'est pas rien, c'est clair. Bon, je pense, consacré un long, long chapitre à
Oui.
notre beau roi Saint-Louis. Je pense qu'on va s'arrêter là
Ouais.
pour aujourd'hui. Je vous invite du coup et ben, par exemple, à lire Jean de Joinville si vous avez envie d'aller plus loin,
Vite
à lire le
Saint-Louis.
livre aussi d'Anaïs, hein, parce que franchement, alors, c'est pas directement sur Saint-Louis, mais c'est sur le contexte voilà, de la septième croisade. Et voilà, et puis bah, du coup, on se retrouve pour un.
Oui, et puis même le Jacques Le Goff, il consacre dans, je crois que c'est l'histoire du Moyen Âge en Occident, un très long passage, et il y a aussi un très beau passage dans le Moyen Âge de Jules Michelet. Alors Michelet, ça date un peu, hein, faut s'updater, mais il y a tout un chapitre quand même sur Saint-Louis, et notamment sur ses grandes réformes, donc c'est quand même intéressant.
Le
Mais
roi
vraiment, la
justicier,
vie
quand même, faut pas
de.
oublier ça, c'est
C'est
clair.
ça. Donc, ouais. Mais vraiment, si les personnes qui nous écoutent doivent en lire qu'un, c'est la vie de Saint-Louis, de Jean de
De
Joinville,
Jean
parce que
de Joinville.
c'était vraiment son ami, quoi. Ils étaient
Ouais, c'est
extrêmement
ça.
proches et c'est très sympa pour retrouver vraiment l'homme quelque part derrière le saint.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup, Anaïs. Et puis, ben, on
Merci
se
à toi.
retrouve pour un prochain épisode.
Merci.
Allez, à plus tard.
Retrouvez toutes nos actualités en nous rejoignant sur Instagram sur les comptes Mariella Vesco, auteur, et The French Storyteller.